Joël Dagosséry, avec le patron de PME Mehdi Guézard et avec notre cheminot et rocker, hard rocker même, Bruno Poncet. Peut-être qu'il appréciera d'avoir un peu de Pantera pour lui donner du rythme, lui donner du souffle, le camarade Bruno. Allez, à demain 9h.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours 9h-midi.
L'afterfoot sur RMC avec Free, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats et son application Free Ligue 1, disponible sur Apple et Android.
Vous écoutez RMC, il est 22h et l'after continue en direct jusqu'à minuit.
RMC. Il y a eu des choses que j'aurais pu éviter, par exemple, conduire sans permis, même si je pensais que j'avais le droit. Mais bon.
C'est la deux chevaux avec la Ferrari.
Il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari, quelquefois c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon.
On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct sur RMC, évidemment, en direct sur la chaîne et YouTube de l'After After tiré foot, l'after premier podcast de France, espace de liberté. Pour vous, les supporters, au 32-16, on vous attend nombreux ce soir avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Florent Gautreau, salut Florent.
Salut,
salut à tous. Alors, l'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est le foot français qui tremble. En attendant le futur contrat des droits télé, comme promis, nous en débattrons tout à l'heure. Loïc Braillet sera là, qui suit le dossier de près. Ah. C'est le reporter RMC Sport.
Du lourd.
Nous aurons également avec nous Cyril Linette, tout à l'heure, ancien patron des sports à Canal, qui connaît par cœur ces problématiques de droits télé.
Parce qu'il a négocié, il a jonglé avec les millions.
Ah, il a négocié.
Je pense qu'il a jonglé les millions.
On va voir, on va lui demander tout à l'heure. Donc ce sera à partir de 23h, dossier spécial droits télé dans l'after. D'ici là, les infos de veille de match de l'OM qui joue une partie de sa place en Coupe d'Europe. Demain soir, mission commando à Digacé. On va détailler ça dans quelques instants. On parlera de Rennes. Daniel veut donner son avis sur la situation rennaise. On débattra également.
Rennes ne sera qu'un support d'une réflexion plus globale.
Très bien. On débattra également du grand chambardome, comme dirait Kevin Diaz, des coachs et directeurs sportifs à venir en Ligue 1. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ça va valser dans tous les sens. Enfin, vous le savez, mais c'est assez étonnant ce qui se prépare. Là, aujourd'hui, on a appris que Farioli était d'accord avec l'Ajax. Bref, ça va bouger. On fera le point tout à l'heure. Et puis le match anglais du soir, Tottenham-Manchester City, qui pourrait en partie décider du titre. Il y a actuellement 0-0 entre les deux équipes. On est en tout début de deuxième mi-temps. Voilà pour... Ah oui, le Real joue également ce soir, même s'il n'y a plus d'enjeu en Espagne, puisque le Real est d'ores et déjà champion. Mais je vous donne le score. Le Real mène 2-0 après seulement 29 minutes. Donc, à quelques jours de la finale des champions, but de Vinicius et de Bellingham. Voilà. Par ailleurs, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, il y a ce fameux match des anciens à Bordeaux, là, qu'on reçut également.
Les 100 ans de Chaban.
Les 100 ans de Chaban Delmas.
Avec Gires qui vient de passer le brassard à Planus.
J'avoue que je ne suis pas très fan de ces matchs des anciens.
Celui-là, il est beau, hein.
Ah bon, alors, d'abord, le casting, il est dingue. Mais surtout, alors, la légende Alain Gires, à la 41e, vient de sortir. Il a 70 ans. Je t'assure qu'il régale encore.
Et t'as vu sur le banc, Garnot et Libop.
Courir autant et être aussi précis, franchement, Gires. Bon, il m'a toujours épaté, mais là.
Voilà. J'y suis, Gires.
Bon, voilà. En tout cas.
Tu sais qui est présent au match?
C'est
très important.
Ah oui, non, mais c'est ça l'info.
C'est la seule. Ouais. Le match, c'est.
Écoutez bien, parce que là, vous allez halluciner.
C'est rigolo, mais il y a une info qui intéresse Bordeaux. Gérard Lopez est présent.
Donc Gérard Lopez ne vient plus
voir les matchs de
son équipe. Matchs de Bordeaux,
il ne s'intéresse plus à son personnel.
Il y a une raison. C'est parce qu'en fait, il ne sait pas qu'ils ont changé de stade. En fait, il vient toutes les semaines à Chaban-Delmas, parce que le match est à Chaban.
Donc, il dit il y a peut-être un mec avec de la thune qui peut racheter le club, là, tu vois.
Donc, il ne vient plus. Non, mais des gens qui ont de la thune, qui ont voulu racheter le club, il y en a. Sauf que lui, ferme la porte, parce qu'il veut rester à la tête du club. Bref. Et donc, il ne vient plus voir son équipe, il ne vient plus voir son personnel. Je ne parle même pas des fournisseurs qui ne le payent plus. Mais il vient au 100 ans de Chaban parce que c'est gala, parce que le stade est plein, parce qu'il y a plein de vedettes pour serrer des louches. Non mais c'est incroyable. Je rappelle quand même, on l'a raconté mille fois les histoires.
À Chaban.
Alors justement, l'histoire était déjà drôle, mais quand j'ai appris que des gens importants du club ont ramené des papiers toilettes de la maison, tellement il n'y en avait plus... Je trouve que il y a des anciens grands joueurs qui se travaillent encore au club.
Un peu comme amener sa saucisse à Francfort.
Tu te souviens que récemment, on a parlé de France-Brésil 86. Il y a deux ans, dans le 11 titulaire, il y avait deux anciens bordelais qui sont au club. C'est Topiara Batiston.
Ils ont amené leur papier toilette ?
Ouais. Il aurait même arrivé de tendre la pelouse.
Voilà. Patrick Batiston a tendu la pelouse.
Voilà où en est ce club.
Bon. Ah, j'avoue que Batiston qui tond la pelouse, qui amène son PQ. Je pensais pas que ça allait me faire la soirée.
Rire, mais je trouve que c'est dramatique en vrai.
Oui, c'est dramatique.
Ça me fait rire. Enfin, c'est évidemment que c'est drôle quand t'apprends ça, mais c'est dramatique. Et l'autre, il vient se pavaner là, aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a il y a des stars. Hein, genre, alors là, c'est la folie d'ailleurs. Gourcuff est encore affûté.
Oui, ça permet de revoir Yohan Gourcuff.
Il y a quand même Zidane, quoi.
Il va normalement sortir blessé quand même.
Il y a un milieu de terrain. Il y avait quand même un milieu de terrain avec Gourcuff, Giresse, Zidane.
Dugas qui est là toujours.
Le plateau de
Vendroux. Il avait été très bon au match de l'after déjà, Dugas.
Là, il faut reconnaître que Vendroux, là, pour ça, c'est incroyable parce que ce plateau-là, franchement, il est dingue à organiser.
On a tenté une volée.
Moins affûté que Giresse,
Fefe. Oui, moins affûté, oui.
Et alors, le moins affûté aussi en mode gardien, c'est Carasso, disons. Il accuse.
Mais ça, c'est dur, les joueurs.
Ça dépend, non, justement.
C'est le haut niveau qui arrête leur carrière.
Mais ça dépend, il y a de tout. Pires, il est. Il est, comme tu disais,
Zidane, il sera... qu'il a le même poids.
Ouais, quasiment. Zidane aussi. Djouli, pas mal. Hein. Alors, Zidane remplacé par Rio Mavuba. Voilà.
Bon, allez, on y va, les gars. Juste avant qu'on démarre, deux choses. Déjà, vous dire que la chaîne podcast des Archives de l'After a été enrichie aujourd'hui d'un podcast de légende de l'After, La Remontada. On l'a remis en ligne.
La Remontada.
Le podcast de La Remontada.
Ah, du match retour.
Ouais.
Oh mon Dieu.
On l'a remis en ligne. Il y a eu Daniel Riolo du Jérôme Rotten.
J'avais dit l'histoire est déjà terminée pour Emery.
Autant vous dire que.
C'était terrible parce que.
C'est culte. En fait,
il ne s'est jamais remis de ça.
On a même remis en ligne quelques chansons de Cazard. Bref.
Comme au match aller, j'avais dit en plus.
Ça, c'est sur une chaîne dédiée, abonnez-vous. La chaîne des archives de l'After.
Mais ça, c'est normal.
Non, mais je ne le referai plus jamais.
100%.
Ouais, mais l'expérience depuis, je ne l'ai plus jamais refait.
Et puis autre chose, je suis content de vous retrouver souriant là ce soir. C'est moins tendu qu'hier soir.
Bah. Tant qu'on
bravo,
va pas sur les débats
gars.
Qui fâchent.
Bravo les gars.
Tant qu'on va pas sur les débats qu'on n'a pas le droit de faire.
Mais je voulais en parler d'ailleurs, parce que quand même, hier, c'est vrai que j'ai eu des retours, comme souvent après ces émissions-là, des retours dans les deux sens d'ailleurs, qui me sont favorables ou qui me sont pas favorables, peu importe. Mais pour calmer un peu le jeu sur cette cristallisation autour des débats qu'on a sur Luis Enrique, qui, à mon avis, est quand même intéressant, si on le prend par le bon bout, parce que tactique, management, façon de se comporter dans un club, pour un coach...
Sauf qu'on n'arrive pas à le faire.
Non mais,
on n'a jamais réussi à
donc
le faire.
Ce sont des sujets transversaux qui sont intéressants et qu'on a abordés quand même, mais je pense quand même que parfois ça devient effectivement un peu inaudible et que ça commence à lasser aussi nos auditeurs, donc je voulais juste dire, calmer le jeu sur ce sujet-là.
Parce qu'un jour, il faudra faire ça.
Mais le décorréler aussi de Luis Enrique, peut-être, parce que c'est un truc qui concerne aussi d'autres coachs, mais ça s'est cristallisé sur lui. Et la deuxième chose que je vais dire à Daniel, personnellement, puisqu'il s'est senti, m'a-t-il dit, insulté, notamment par rapport au terme que j'ai employé bidon dans une émission, je croyais en aucun cas l'insulter, je l'avais dit plus pour chambrer, pour moi c'était plus une boutade comme j'ai pu le dire à des adversaires sur un terrain de foot parfois, mais
c'est comme ça, tu dis au mec non, en face toi t'es bidon.
Non, mais, moi j'ai jamais fait ça sur un terrain.
Ouais, non, mais je reconnais que je n'insulte personne, tout le monde le sait, encore moins Daniel que je respecte énormément, je t'ai jamais insulté Daniel d'ailleurs, mais si tu l'as pris comme une insulte, je m'en excuse officiellement ce soir.
Laisse tomber, à la limite ce qui m'a plus emmerdé, c'est que tu penses que je souhaitais la défaite du PSG quand on sait, d'abord j'étais avec Jean-Louis le soir au Parc des Princes, l'état dans lequel j'étais.
Je ne dis pas que tu souhaitais la défaite pour la défaite, pour que ça arrange tes affaires, on va dire.
Mais non, c'était terrible, je m'en fous de mes affaires quand c'est comme ça. D'abord, je n'ai pas d'affaires.
Je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que Luis Enrique est un des gars les plus clivants qu'on a eu dans l'histoire de notre émission. Est-ce qu'il y en a d'autres, Daniel, qui te viennent des personnalités
non, en
du
tout cas,
foot
entre nous
dont
deux,
on débattait,
entre nous deux,
dont
oui.
on débattait, mais en tout, qui suscitait autant d'opposition et de passion.
Mais parce que je le répète, je ne comprends pas.
Neymar, peut-être.
Je ne comprends pas ce qui vaut une telle défense de la part de Flo. Je n'arriverai jamais à comprendre.
Je repars pas, mais pour revenir sur quelque chose.
Je le comprends de Walid parce qu'il me l'a expliquer.
Non, mais Walid, justement, vient de te dire un truc. Moi, c'est juste ça. C'est que, par exemple, dans les échanges qu'on a eu
même off, s'il vacille en ce
tous les deux,
il vacille.
Dans les échanges qu'on a eu off tous les deux, Daniel, je te dis, par exemple, mais comme on n'a souvent pas le temps et pas le loisir de se laisser parler suffisamment, moi, je t'avais dit qu'à Newcastle, le match là-bas, c'était pas bon. Je te dirais aussi que Fabien Ruiz, t'as raison de mettre ce sujet-là. T'as raison sur quoi? Enfin, raison. Colomouani, quand il l'a mis la dernière fois, évidemment, contre le Barça, je l'ai pas compris. Enfin, j'ai compris pourquoi il l'avait mis, mais je pense que c'était quand même une erreur. Donc, moi, je suis prêt à reconnaître ces erreurs-là. C'est pour ça que de dire.
Vous défendez
débat,
une idée.
Voilà.
Vous défendez
mais on,
une
reste,
idée.
Effectivement, on reste que, sur la défense de,
en fait,
de quelqu'un
le truc,
qui
c'est que
a.
Vous défendez une idée absolument louable et que j'ai toujours défendue. De l'entraîneur boss, de l'entraîneur
exactement.
Qui a des idées de jeu, de l'entraîneur
c'est
qui
parti de là, hein.
Sauf que ça
rappelle,
ne lui...
j'ai dit c'est lui le boss, c'est ça qui est important.
Sauf que ça ne lui correspond pas et que je pense qu'il est pas ce qu'on croit. C'est mon avis
ouais,
intime
peut-être.
Et,
alors,
et c'est pour ça que je
attends,
mets juste c'est pour ça
un
que j'ai mis
un
de l'humain dedans.
En dehors de ça,
je pense qu'on se on sa personnalité et quand j'entends ce que disent des anciens qui l'ont fréquenté, je pense
sauf que Daniel
que votre idée elle est bonne ouais. Mais que ça ne lui correspond pas alors qu'on croit que ça lui correspond.
Sauf que Daniel et j'ai écouté Jérôme tout à l'heure dans Rotten sans flamme, je suis d'accord avec lui là-dessus. Quand ton vestiaire est à ce point avec toi. Quand les joueurs font écouter ce qu'ils disent.
C'est d'accord. Hein,
oui. C'est important, ça. Parce que j'ai réécouté ce qu'a dit Mbappé, les trois phrases qu'il a dites sur Luis Enrique. Il a dit trois phrases. Il m'a sorti de situations qui étaient parfois compliquées. Notre relation a toujours été fluide. C'est pas tout à fait la soupe qu'on nous a servie.
Mais j'ai pas de problème avec ça.
Non.
Sauf que je sais
donc,
que c'est.
C'est important d'emmener son vestiaire.
Je sais ce que sont ces choses-là. Et tu connais très bien la vie d'un vestiaire et d'un entraîneur. Je sais à quel point un vestiaire se retourne. Et
ouais.
Il se retournera.
Ah, peut-être.
Parce que
mais c'est
parce
pas le cas en ce moment. C'est
en fait,
ça qu'on voulait dire.
Penser,
il a réussi
ça.
À emmener tout. Quand on disait, il a réussi à emmener tout le monde, c'est une vérité. Vitinha l'a dit,
Mbappé
l'a
dit. Je repropose mon deal pour conclure.
Matchs mal gérés.
Avant qu'on
et
parle
moi,
de l'OM.
Je te dis que c'est Mourinho.
On ne parlera plus de Luis Enrique ce soir, Daniel.
Non, mais Mourinho, qui avait gagné la Ligue des Champions, l'Europa League 2003-2004, s'est permis, et 2010 en plus après avec l'Inter, s'est permis d'avoir ce comportement-là. Avec les titres qu'il a eus et une réussite absolument incontestable. Quand il a décidé de vriller complètement dans sa com, de se transformer en gourou de secte avec ceux qui le suivent ou ceux qui sont ses ennemis, il a fini dans le mur. Et lui finira dans le mur, mais pas avec le palmarès de Mourinho.
Alors pour conclure sur Luis Enrique, on va écouter l'interview du jour, après on n'en parlera plus. Parce qu'il y a un journaliste espagnol en conférence de presse aujourd'hui, veille de match, qui lui a dit « Bon, maintenant qu'on sait tous que Mbappé va aller au Real... » est-ce que vous lui avez parlé un peu de l'Espagne?
Je préviens Daniel.
Et
attention, humour.
Et du club.
Je préviens Daniel.
T'inquiète, je sais quand il veut être drôle.
Écoutez la réponse très, très, très directe de Luis Enrique.
On ne l'entend pas.
Ah. Bon.
Pas grave.
Bon. Bon, alors, je vais vous la faire. Il a répondu.
Bah non, c'est dommage.
Il a répondu. Aujourd'hui est un jour pluvieux. J'aime les jours pluvieux parce que je viens de Riron. Et qu'il y a beaucoup de pluie à Riron. En fait, il a répondu n'importe quoi.
Mais il y a beaucoup d'entraîneurs bon, voilà. Qui ont manié comme ça, qui ont fait les drôles, qui ont fait les seconds degrés.
On avait dit que ça ne suscitait pas de réaction.
Mais ça termine toujours dans le mur. Et je pense que le PSG pouvait s'éviter le luxe d'avoir un entraîneur qui va l'emmener dans ce
mais
dans
sur
ce
une vraie
de
question
truc-là.
Derrière, il a quand même répondu aussi classiquement, parce qu'il faut le dire aussi, pour ne pas le caricaturer totalement, sur Mbappé et les JO. Le club qui te paye, c'est compliqué. Il est aussi capable. Ah, sur Zaïre Emery, excuse-moi, sur Zaïre Emery. Et après, non, juste. Rien à voir avec Luis Enrique. Juste, on a eu Boateng, on a eu le positionnement de Mbappé, on a eu des clivages forts sur des joueurs, Barcola évidemment, Luis Enrique, j'en parle
pas. J'enlève pas un mot.
Non, mais moi non plus. Donc on a des clivages. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie aussi de l'histoire de l'after, mais que c'est pas un entraîneur espagnol comme Luis Enrique, futile Luis Enrique, qui va gâcher 18 ans d'after. T'es d'accord avec ça?
Absolument.
Dans un instant, Marseille, gassé en commando à Reims. On vous raconte toute l'histoire dans quelques secondes. Toujours. Ah non, City a ouvert le score. Du coup, j'ai même pas vu le but, tiens. City ouvre le score 1-0 pour.
Mais je parlais, j'ai jeté un coup d'œil. Et...
1-0 pour City face à Tottenham, but très important en vue du titre pour Manchester
c'est
City. C'est effectivement Haaland qui a marqué et City qui revient à hauteur là d'Arsenal. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.
L'UEFA Euro 2024 arrive bientôt. À cette occasion, Lidl vous propose de tenter de gagner des places pour assister au match de la compétition. À partir de 35 euros d'achat en magasin, en scannant votre application Lidl Plus, vous pouvez tenter votre chance et vivre une expérience unique en Allemagne. Rendez-vous sur Lidl Plus pour faire partie des euros gagnants. RMC, il est 22h14.
à venir sur RMC.
Demain, le Super Moscato Show est en direct de l'UBB. Et le soir, football, deux matchs en retard de Ligue 1. Jeudi, 20h minuit, spécial Euro 2024. Didier Deschamps annonce la liste des joueurs sélectionnés. Et jusqu'à vendredi, jouez pour faire tourner la roue RMC et gagner jusqu'à 20 000 euros.
Ne ratez rien sur RMC. Bien plus qu'une radio.
Salut, c'est Antoine Dupont. Mon truc pour récupérer rapidement entre deux matchs de rugby, le roller pur essentiel articulation et muscles. C'est mon coach antidouleur. Il est aussi efficace que naturel.
Le roller pur essentiel articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles. Dispositif médical en pharmacie.
Et contre les courbatures, rien de mieux que l'huile de massage Arnica Gold Terry pur essentiel. Avant et après l'effort.
Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Bienvenue à Paris.
Il reste une petite semaine d'Olympiade. Si ça continue comme ça, on risque de finir nos jeux à zéro médaille d'or.
L'esprit Coubertin, une comédie réjouissante et assumée.
Il y a eu un SMS dans le public, ça fait tout-tout. Moi, j'entends tout-tout. Je plonge, je crois.
Avec Benjamin Voisin et Emmanuel Berco.
L'esprit Coubertin, actuellement au cinéma.
Bonjour, je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise. Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Si vous aimez les déjeuners animés, invitez-vous tous les jours à la table d'Estelle Denis dès midi sur AMC. On vous garde une place entre Fred Hermel, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt, Daniel Riolo, et Vincent Serroussi qui vient nous faire rire à 14h45. RMC, Estelle Midi, midi 15h. RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h16, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. De Bruyne, ah non, il reprend le jeu. On pensait qu'il était blessé, mais City mène toujours à zéro à Tottenham. On va écouter Jean-Louis Gasset. Demain soir, l'OM est à Reims. Mission commando, explication du coach marseillais.
Il faut que les joueurs sentent qu'on réfléchit. L'objectif est encore devant nous. On a des choses à se faire pardonner, mais si on réussit les deux matchs, on aura fait, on dira pas mal pour l'Olympique de Marseille. Donc de là, on part la veille, je les vois individuellement parce que chacun a ses problèmes. Et là, il faut prendre les 23 ou 24 et parler avec eux. Déjà, voir physiquement comment ils sont, voir mentalement comment ils sont. Il y a des gens qui digèrent mal l'élimination. Il faut des fois remonter le moral pour avoir peut-être 20 minutes dans un match où le joueur se retrouve, c'est le bon moment pour dire bon, je rentre et je fais gagner. Ça éliminera pas tout, mais au moins on sera à l'objectif.
Bon, rappelons évidemment que Marseille doit gagner les deux matchs qui lui restent pour être européen. Ce sera le cas, hein, mais encore faut-il évidemment les gagner maintenant. D'autant qu'on sait qu'à l'extérieur, l'OM a les pires difficultés cette saison.
Ils vont pas jouer une équipe en grande forme, ouais, qui n'est pas en crise, avec un entraîneur qui ne vient pas de se barrer en doute. Ah là, si Marseille,
oui, se met, là, c'est vrai
si Marseille va pas gagner à Reims, pardon, mais il y a eu assez de contre.
Si Marseille gagne, ils sont sixième hein, demain soir.
Il y a eu assez de contre-performance à l'OM pour pas en ajouter une de plus. Ce serait absolument logique que l'OM aille quand même chercher cette victoire et termine le championnat. Enfin, sixième, c'est un objectif que l'OM doit aller chercher. Je pense qu'ils ont assez déçu leurs supporters cette année pour pas terminer au taquet là sur les deux derniers matchs qui restent, quoi.
Alors, info
ils doivent
importante.
Gagner les deux contre Lorient, c'était pénible à voir, mais ils ont réussi, c'est le principal. Voilà, il faut terminer avec trois victoires. Et avec trois victoires, bon, bah, tu vas décrocher une petite Coupe d'Europe. Et ça, déjà, en soi, c'est une énorme. De quoi ?
T'as dit trois victoires.
Non, mais trois avec celle de Lorient, il veut dire. Ouais.
Oui, trois avec celle de Lorient.
Ah, pardon. D'accord.
Oui, enfin, un enchaînement de trois victoires pour finir et aller décrocher le minimum. Enfin, n'oublions pas quand même de quelle façon démarre Marseille au mois d'août. Hein. Il y a play-off de Ligue des Champions, recrutement qui est censé séduire tout le monde, arrivée d'un coach avec style de jeu différent, mais style de jeu quand même. Et grande promesse parce que l'OM restait sur deux belles saisons en termes de classement et de podium. Terminer sixième, c'est le minimum. Sinon, tout va valser. L'aventure en Europa League, bon, on s'en souviendra comme d'un truc qui a fait vibrer les gens trois soirs, pas plus. Et un championnat où t'as terminé à l'envers, quoi.
Donc vous l'avez compris, Marseille est parti 24 heures avant, ce qu'ils ne se font pas d'habitude. La bonne nouvelle du soir, c'est qu'Aubameyang est prêt. Est prêt à jouer. Il avait des problèmes gastriques et des mal au ventre, peut-être une petite gastro, bon voilà. Mais finalement, tout est bon. Gigot est forfait, certains vont dire que c'est une bonne nouvelle. Harit et Unai sont incertains. Voilà les infos de veille de match concernant l'OM. Laï est avec nous au 32-16. Laï est là, bonsoir.
Bonsoir. Salut l'after.
Salut, salut Daniel. Salut Laï. Bon, t'es optimiste?
Optimiste, comment tu peux être optimiste après une saison pareille? Je ne sais pas. Tu n'as gagné que deux matchs à l'extérieur. Oui, rien, ça ne va rien jouer. Havre aussi, ils sont déjà maintenus. Mais le problème, c'est que cette saison, on a eu.
Tu joues quand même deux clubs qui ne jouent plus rien. Reims et Le Havre, bon, ils sont en rouille.
Mais tu ne peux pas avoir un meilleur calendrier que ça pour finir. Hein.
Mais ça ne veut rien dire. Eux, peut-être qu'ils vont être beaucoup plus libérés aussi, parce que quand tu sais que tu es déjà sauvé, tu n'as plus rien à jouer, tu vas jouer libéré. Donc, moi, cette équipe, cette saison, j'ai entendu sur Rotten Sans Flamme les gens dire que est-ce que cette saison, elle va être sauvée parce qu'on va être sixième. T'as pas eu de jeu, tu vas pas finir sur le podium. T'as été déçu, t'as eu beaucoup de déceptions cette saison. Même si tu arrives à accrocher cette sixième place, on est quand même déçu. Hein. Excusez-nous, mais c'est une saison où t'as vivré, on va dire, en Coupe d'Europe parce que t'avais beaucoup de cœur et t'avais Aubameyang qui marchait sur l'eau, on va dire. Mais sinon, cette saison, en Ligue 1, il y a eu que des déceptions. À chaque fois qu'on avait un gros match,
bon, donc défaite, tu te quoi. Dis que t'es pas une déception près et que t'es pas très confiant pour les deux dernières.
Ah non, façon, on peut pas être confiant.
Cette saison, de toute façon, cette saison est ratée. Donc... Même si tu gagnes tes deux derniers matchs et t'es sixième, ok, ça te sauve un peu les apparences de la fin, mais ce qui est important maintenant, c'est quel coach, quel recrue, quel nettoyage dans l'effectif, mais le problème, c'est avec quels moyens. Parce qu'attends, on oublie quand même que l'OM n'a pas des moyens énormes pour faire ce grand ménage. Donc,
comme chaque année, tu vas avoir la promesse de McCourt de rallonger l'oseille. On ne sait jamais si c'est réellement tenu ou pas, mais je crois que la promesse va tomber encore cette année.
Parce que en fait, l'important maintenant, c'est de savoir. Ils ont assez bien géré, moi je trouve, l'histoire Gassé, c'est-à-dire de trouver un coach intérimaire qui est annoncé comme tel. C'est 6 mois, c'est rien d'autre. Et nous, pendant ce temps-là, on travaille pour la saison prochaine. Moi, je trouve que c'est très bien. Longoria a repris le pouvoir, tant mieux. C'est à lui de prouver ce qu'il veut nous dire. Moi, je me souviens de l'interview que vous avez faite dans la revue de l'After, puisque on a critiqué ce manque de stabilité. Et lui, il n'arrêtait pas de dire dans l'interview, mais justement, nous, on veut mettre un projet stable, ce qui est complètement contraire à ce qu'on a vu. On va dire ton tac.
S'il le fait là, c'est avec un an de retard, quoi.
Bah, bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? S'il a pris, entre guillemets, la décision de mettre un intérimaire pour 6 mois, en travaillant sur un projet, on va dire à la Fonseca, par exemple, c'est bien pour avoir quelque chose sur un contrat un peu plus long, d'un peu plus stable. Donc, moi, je dis OK, banco. Sauf que, une fois que tu auras le coach, comment tu fais pour construire l'équipe, qui aujourd'hui est quand même cataclysmique en termes techniques, pour avoir une équipe digne de ce nom? Parce qu'aujourd'hui, tu as des joueurs, ils se sont trompés sur des profils de joueurs qui n'ont même pas le niveau pour jouer à l'Olympique de Marseille. C'est quand même une équipe qui est, pour employer un terme qui fâche, qui est bidon, donc en partie. Donc, si tu veux, je trouve que...
Ça dépend de qui tu gardes et de combien de joueurs tu peux prendre. C'est pas toujours forcément une histoire d'oseille, surtout en Ligue 1, si t'arrives à trouver le coach qui te fait bien jouer l'équipe. On va pas reprendre l'exemple de Brest, où tu sais très bien, en Ligue 1, il y a toujours de la place pour des choses un petit peu étonnantes. Et l'OM aura quand même toujours plus de blé que la plupart de ses concurrents. Je disais ça un petit peu hier. Longoria, que je croyais un peu résigné, a fini par gagner cette guerre. Ça veut dire qu'il arrive combatif avec cette reprise de pouvoir. Il va continuer à bosser avec Mehdi Benatia. Et ensemble, leur première mission, ça va être le coach. Ils veulent tout faire pour convaincre Fonseca. Mais Fonseca, le faire sortir d'une équipe qui va peut-être jouer la Ligue des Champions pour aller vers une équipe qui, au mieux, jouera la petite Coupe d'Europe, ça veut dire que tu vas faire exactement ce que tu as dit, Flo, c'est le convaincre sur un projet de 3 ans. En gros, tu viens... Et on va te donner les moyens, parce qu'a priori, quand il démarre Fonseca avec Lille, il n'y a pas des stars hein, dans l'équipe non plus. Hein. Mais tu vas bosser, on va te laisser le temps, on va essayer de te trouver, parce que cette équipe a besoin, on va dire, d'un défenseur. faut voir hein, si Baliardi s'en va, parce qu'il y a une offre à plus de 20 millions, évidemment qu'ils vont prendre l'oseille. Mais s'ils vont chercher un défenseur, est-ce qu'Aubameyang reste ou pas? T'as ton buteur, Rongier va quand même finir par revenir. Évidemment, hein, dit comme ça, ça va, je vais difficilement aller au-delà de 6 joueurs de très bon niveau. Oui, il va falloir et le talent de l'entraîneur et quand même 4-5 joueurs et des joueurs de ballon. Parce que Fonseca, pour qu'il travaille,
ça.
Pour qu'il travaille, qu'il il faut des joueurs de ballon, il ne faut pas des coureurs à pied.
S'il prend Gel Gomez avec lui, tu vois, je te dis d'accord.
Il ne faut pas des coureurs à pied, genre Sarr, Mumbagna, ce genre de joueurs-là.
C'est pour ça que si tu regardes l'effectif d'aujourd'hui.
Ou, comme il s'appelle, Ndiaye aussi.
Bien. Si tu as aujourd'hui sur l'équipe type, tu as 6 joueurs, comme tu dis, tu as la moitié de l'équipe qui n'est pas suffisamment technique pour un coach comme Fonseca et pour une équipe comme l'OM. Ça, c'est dans l'équipe type. Le banc de touche, je te rappelle que parfois, Gassé ne faisait même pas tous ces changements parce qu'ils n'avaient même pas de banc de touche. Non, mais on est dans un cas d'une équipe de l'OM qui doit jouer le podium avec un effectif à 14 joueurs.
Beaucoup de blessés, donc ça, beaucoup, on ne le dit jamais aussi. Assez, mais le staff médical, c'est très important.
Flo Germain, on avait parlé, apparemment, il y aura aussi dans tout le chantier qu'on évoque, c'est-à-dire le coach, les recrues, ceux que tu vas pouvoir... voire disparaître comme Correa, puisque l'option ne sera pas levée. Mais il y a ici, effectivement, ce qu'on ne voit pas, le plus invisible, le staff médical qui a largement fauté cette année, effectivement.
Bon, voilà pour Marseille. Et puis, autre match crucial pour Nice également demain. Hein, Nice qui reçoit le PSG. Et donc, on a appris ce matin que Farioli était d'accord avec l'Ajax et que maintenant, il fallait qu'il y ait un accord entre les deux clubs. Donc là aussi, on est sur une situation un peu où ça va partir en vrille sur la fin de saison. Hein, même si Nice reste sur quand même une série de victoires.
Ça va pas partir en vrille, Gilbert. Ça termine... Enfin, tout le monde doit être satisfait quand même.
De la saison niçoise.
Ben, pardon, mais Nice, il démarre le championnat avec l'idée 7e. Ils vont finir 5e.
Ou peut-être 4e, on va savoir. Ils peuvent encore.
Qui sait.
S'ils gagnent demain, en fonction du dernier match.
Un entraîneur qui a sa personnalité, a pas offert loin de là un spectacle toutes les semaines, mais en tout cas a apporté beaucoup de sérieux à cette équipe. Je répète, c'est quand même une équipe, c'est une particularité assez folle, mais qui n'avait qu'une seule charnière centrale, avec un mec de 41 ans maintenant dedans, il a 41. Voilà, avec une grosse crise au milieu de l'hiver, mais qui grâce à un très gros début de championnat a réussi à se remettre sur pied à la fin pour terminer à une très belle place qui est au-dessus des espérances. L'entraîneur n'a quasiment pas été soutenu de l'année, limite on ne le félicite pas du tout. Il a une offre d'un club comme l'Ajax, mais enfin, il y va en courant quoi. Où il va travailler avec des jeunes, c'est ce qu'il aime, à pouvoir installer son style de jeu qui correspond aux idées qu'il peut y avoir dans ce club. Si un club comme l'Ajax vient le chercher, c'est quand même qu'on estime qu'il a des qualités. Je veux dire, mais moi, à sa place, je m'en vais. Quand j'ai vécu l'année qu'il a vécu à Nice, où il a quasiment jamais reçu le soutien des dirigeants, il était un petit peu comme ça.
Gisolfi, directeur sportif, devrait partir aussi. Hein. Donc
bah, là, c'est... En plus, alors que c'était probablement celui qui le soutenait, avec un projet Ineos qui est toujours très flou. On comprend rien du tout à ce qu'ils veulent faire. À chaque fois, on croit qu'on va comprendre.
Et on sait que Nice s'intéresse au directeur sportif de Brest.
Oui, Lorenzi Ghisolfi, de toute façon, c'est le duo gagnant des directeurs qui sportifs lui-même, français jeunes.
Qui lui-même aime beaucoup Habib Bey. Je vous fais un peu les trucs qui se disent. Hein. Tout ça,
oui.
C'est de l'ordre de la
rumeur. Tout ça peut se tenir. Mais encore faut-il savoir, oui, alors qui va être le nouveau directeur sportif là-bas si Flo Ghisolfi s'en va. Farioli, franchement, à 90%, il ne reste pas. Bon, moi, ça me semble tout à fait logique. Mais tout ça, c'est de la tambouille interne. À la limite, le club trouvera les solutions, mais sur la saison de Nice, la saison, elle est réussie.
Ouais, après,
ce club-là qui termine à cette place-là...
Après, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un gros gâchis si Farioli s'en va, parce que là encore, puisqu'on parlait de... On sait que ça ne peut plus durer 10 ans, mais tu as quand même des sessions, maintenant, on espère des séquences de 2-3 ans, tu vois, où tu dis tu peux construire, c'est ça maintenant le foot, c'est plus...
Mais il faut que les dirigeants le veuillent, Flo.
Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que, quelles que soient les raisons... Je suis d'accord avec toi, la saison n'est pas du tout ratée. Mais c'est dommage que tu arrives là pour le coup, avec un coach qui a un projet de jeu, qui certes n'est pas totalement abouti parce qu'il n'a peut-être pas eu les joueurs qu'il fallait non plus. Je rappelle quand même que Nice, c'est la 12e ou 13e attaque de Ligue 1, que Lorient a marqué plus de buts que Nice cette année. Même si les buts, ça n'est pas tout. C'est quand même un souci. Mais en revanche, j'aurais trouvé bien que justement, tu laisses le temps à Farioli d'avoir les recrues qu'il faut pour être plus fort et de continuer d'installer cette idée de jeu qui existe, tu l'as dit hier, de ce côté protagoniste. Donc là encore, on est dans des projets à chaque fois inaboutis pour plein de raisons, mais moi je trouve dommage. Je souhaite que Longoria arrive enfin, et pourquoi pas avec Fonseca, à installer quelque chose sur 2-3 ans, et j'aurais souhaité et aimé que Farioli, qui apporte quand même quelque chose à la Ligue 1, même s'il n'avait pas donc tout réussi, y compris sur les buts marqués, eh ben, ne reste pas. Je trouve que c'est quand même pour le projet niçois, qui n'arrête pas de hoqueter là, depuis plusieurs années, avec le changement d'objectif, avec le changement d'idée. On va remplir le stade, on va mettre du spectacle avant de penser à devenir l'un des 3 meilleurs clubs français. Et maintenant, on va rechanger de coach au bout d'un an, alors qu'on tombe sur un mec qui a quand même une idée du foot intéressante. Je trouve ça dommage.
Et je ne défends pas, contrairement à ce que dit Pichlaus là.
Sur le chat YouTube.
J'ai été le premier à dire à quel point j'étais pas convaincu. Je trouvais que le style n'était pas à la hauteur du propos. Néanmoins, après, quand on regarde un petit peu plus près ce qui se faisait, et encore une fois, je suis pas fondamentalement fan du jeu, loin de là, hein, mais le nombre d'occasions créées par rapport au nombre de buts marqués est déficitaire. Et on ne pourra pas faire l'économie de critiques fortes à l'encontre d'un joueur comme Terem Moffi, qui est arrivé pour 25 millions avec l'idée que c'était un mec capable de mettre 20 buts dans une saison, et qu'il a été extrêmement maladroit, et que peut-être que certains joueurs ne correspondaient pas au profil de jeu que veut mettre en place Farioli. Mais il y avait beaucoup d'occasions créées, très peu de buts marqués. Maintenant, comme je l'ai dit dès le début, et ça n'a pas énormément changé, on s'est quand même beaucoup ennuyé en regardant Nice, ça c'est sûr.
Après, un dernier point juste sur Nice, et qui me gêne depuis le départ dans ce projet, entre guillemets, c'est l'actionnaire. C'est-à-dire que tu sens depuis le départ que les yeux sont tournés ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont toujours tournés vers l'Angleterre et que tu ne sais pas exactement pourquoi ils sont là. C'est-à-dire qu'ils sont là pourquoi ? Pour blanchir de l'argent ou à un bout d'un moment ? Parce que si tu veux, ça va quoi, le projet qu'il y a.
Je ne pense pas que ce soit, on puisse dire ça, parce que c'est une entreprise de multimilliardaires.
Ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas arriver en racontant une histoire ou en voulant raconter une histoire aux Niçois et aux supporters niçois en ayant toujours les yeux tournés outre-manche. Tu vois, je pense que c'est ça la réalité. Et c'est aussi pour ça que ça ne marche pas et qu'il n'y a pas de continuité dans ce projet.
Dans un instant, on est de retour pour faire justement un point sur la valse des coachs. Ensuite, Julien Laurens sera avec nous à 23h. Gros dossier droit télé avec des révélations, vous verrez. C'est très intéressant ce qu'on va apprendre et ce dont on va débattre. Mais juste avant cela, je vous signale que City mène toujours 1-0 à Tottenham, il reste un quart d'heure. Que le Real mène 3-0 face à Alavés, c'est la mi-temps. Et puis je vous signale que la roue RMC est toujours là, bien sûr, quand vous entendez notre célèbre trompette qui est là. Eh bien, vous pourrez envoyer un SMS, vous envoyez roue par SMS au 732-16 pour participer à notre grand draw qui vous permet de gagner des sous. En fonction du résultat de la roue, vous pouvez gagner jusqu'à 20 000 euros. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance dès que la trompette retentit. Roue par SMS au 732-16. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
RMC. Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et demain, on fait le procès de Luis Enrique.
Vous aimez le poker ? Vous êtes fan de l'afterfoot ? Chaque soir à 22h45, rejoignez le tournoi Afterfoot sur winamax.fr. Gilbert Bribois et Daniel Riolo vous y attendent pour rythmer vos parties.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
À tous ceux qui hésitent entre les rigatoni, les capellini, les tortiglioni, c'est le même goût, non ? À ceux qui cherchent la différence entre les spaghettis numéro 5 et les numéro 7, et qui se demandent pourquoi il n'y a pas de numéro 6. Et à ceux qui vont repartir avec un paquet de coquillettes et basta. Chez Intermarché, pour l'achat d'un paquet d'un kilo de pâtes Barilla à 1,98€, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 26 mai, 2 kilos soit 1,39€ le kilo au lot, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC Escrime. De vendredi à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De vendredi à dimanche, avec RMC.
17h56. 17h58,
l'enfer le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player.
Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous condition d'éligibilité.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h35, Daniel Riello, Florent Gautreau sont là avant de parler de Roi Télé à 23h, avant de parler de Rennes dans quelques minutes. Un petit point sur la valse des coachs et des directeurs sportifs. On en a parlé un peu concernant Nice, mais là j'ai fait le compte. À minima, 9 clubs pour échanger de coach là, à l'intersaison. C'est assez conséquent quand même. Hein, alors, et encore, il y en a certains que j'ai pas mis, que j'aurais pu mettre. Bon, Lille, voilà, Nice, ça fait 2. Marseille, ça fait 3. Rennes, on le compte parce qu'on sait que Stéphane, c'est chaud, ça fait 4. Reims, ça fait 5.
Stéphane était prolongé quand même. Hein.
Stéphane, c'est chaud, il était prolongé de 2 ans au mois de février.
Ah ouais, mais c'est chaud.
Bah, c'est plus chaud pour Florian Maurice que pour Stéphane.
Ouais, quand même.
J'ajoute les clubs de bas de classement.
Stéphane, je vois pas bien ce que tu vas lui reprocher. Quand
Lorient, a, Clermont, Metz,
sur sa
peut-être
présence,
même Le Havre.
Sur sa présence à lui, ils sont 6e.
Bon, non, mais là, attendez, je vous dis pas que tous ces clubs vont absolument changer. Il y en a, on sait qu'ils vont changer, il y en a d'autres. Bah, on entend des rumeurs, il y a des discussions, il peut se passer des choses. Voilà. Et j'aurais même pu rajouter Monaco, parce que Uther, on n'est pas sûr à 100% qu'il sera encore là la saison prochaine. Donc il y a quand même là une instabilité, un chambardum, pour reprendre le terme célèbre de Kevin Diaz, qui est assez étonnant. Et on ne parle pas là des directeurs sportifs, Ghisolfi, Lorenzi par exemple, qui est aussi pour échanger de crèmerie. Et Florent Maurice, qu'on peut ajouter à la liste, qui donc est contesté, dont on parle en Italie. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça suscite aujourd'hui, à la mi-mai, un débat fou, mais il fallait quand même faire un petit point, quoi, sur le chambardum. Voilà.
Bah, non, mais déjà, il y a plusieurs. Il y a des cas différents, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de coachs qui arrivent, entre guillemets, enfin, soit en fin de cycle, soit en fin de mission commando, comme Gasset à l'OM. Donc, il y a des choses évidentes qui vont changer, qu'il faut changer. Après, pour le reste, ce qui, à mon avis, est le plus impactant, et enfin le plus important pour les projets à moyen terme, c'est les directeurs sportifs. C'est ce que tu as dit sur les DS. Parce que ce qu'on a dit pour Ghisolfi, ce qu'on peut dire pour Maurice Arène, ça peut être un jeu de chaise musicale qui va changer beaucoup de choses. Parce que d'abord, tu as raison, ça peut s'accompagner du coach. Parce que ça peut
comme
jouer
par hasard,
aussi.
Les trois dont on parle un peu le plus en Ligue 1, quand même.
Absolument. Ouais. Et ça, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, notre regard doit se tourner vers ces postes-là et vers ces gars-là, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a souvent reproché parfois en France là, d'avoir perdu un peu le poste de DS, tu vois, dans l'organigramme d'un club entre le président et l'entraîneur. Ça me paraît plus capital, parce que pour le reste, oui, il y a des clubs où ça va pas forcément changer. On parle de Rennes, il y a pas forcément les 9 changements que tu vas annoncer.
Bon, et donc sur Stéphane, je vous confirme que actuellement il y a réflexion en interne. Hein. C'est ce que nous font savoir nos reporters qui suivent le Stade Rennais.
Ce qui est sur Rennes, c'est que vu la saison et l'échec,
il a re-signé avec un beau salaire à 150 000 euros par mois.
Le problème, Stéphane, justement,
il faudrait payer derrière près de 4 millions d'indemnités.
Ouais, ce qui est drôle, c'est que quand il est parti la dernière fois, tu sais qu'il s'est assis sur les indemnités. C'est un des seuls à avoir fait ça.
Rattrapé maintenant.
Ouais, et ce qui est reproché, moi j'en ai parlé directement à Olivier Cloirec, à la fin du match Rennes-Lens, c'est vrai que ce que moi je n'ai pas compris, et je l'avais dit dans l'after, c'est justement qu'il a été prolongé si tôt. Et si, effectivement, il quitte le club alors qu'il a été prolongé au mois de février, c'est une nouvelle désillusion, on va dire, ou faute de gestion du côté du Stade Rennais. Parce que c'est justement depuis ce moment-là que le Stade Rennais a stoppé et a de mauvaises performances. Donc, je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait de prolonger trop tôt un coach, alors qu'il n'y avait aucune raison de se précipiter, parce qu'il faut rappeler que quand il a signé, c'était là, comme pour Gasset, commando, 6 mois, accepté par les deux côtés, pas de clause qui disait « si je finis 4, 5, je prolonge », rien. Donc les dirigeants n'étaient pas obligés de se précipiter pour le prolonger. Donc si maintenant on pense à le sortir, alors là effectivement de ce qui était on va dire une cause supposée des échecs de la fin de saison, on peut passer à une faute de gestion, on va dire.
Ce qui nous permet d'enchaîner sur la vie de Daniel. Jingle, Ariolo.
Déjà, excusez-moi, mais comment, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de contre-argument à ce que je vais dire.
Je me fais rire tout seul. Oui, à travers Rennes, évidemment, je vais en parler. Mais bon, on l'a un petit peu abordé dans les différents cas. Et c'est normal qu'au moment du bilan de la saison, on passe en revue justement l'entièreté d'une saison. Et je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, ça. On est là à parler des deuxièmes parties de saison, on fait l'analyse du coach, comme on vient de faire, qui est arrivé en cours de saison. Mais le cas de Lyon est un véritable miracle. Être aussi mal pour finir éventuellement aussi bien. Attention, il faut quand même voir le dernier match, mais Lyon est peut-être en train d'être une exception jamais vue. Pour le reste, quand je dis à la fin de la saison, tu passes à la compta pour faire le bilan, quand tu regardes aussi bien Marseille, Rennes, Lens, ces clubs qui ont connu des trous dans la saison, qui ont mal démarré, qui ont essayé de se remettre sur pied, qui ont changé des entraîneurs, qui ont recruté au mercato pour se remettre sur pied. C'est très difficile, mine de rien, de justement retomber sur tes pieds et d'arriver à conclure comme il faut la saison. Le cas de Rennes, la saison, on a l'impression, si tu te souviens de quand on disait « Ah, Genesio, l'entraîneur de Rennes, est-il usé ou non, va-t-il continuer ?» J'ai l'impression que c'était il y a 5 ans. Non, c'était l'été dernier. C'était l'été dernier. Première question dans cette saison, Genesio est-il usé? On pensait qu'il allait partir, finalement il allait changer d'avis. Ouais, je reste, mais je veux des joueurs de tel et tel profil. Je veux comme ci, je veux comme ça. Flo Maurice a plutôt accédé à sa demande. Et l'effectif de Rennes, quand on démarre la saison, il est plutôt riche. Hein. Tu regardes les joueurs offensifs. Derrière, on peut se poser quelques questions. Flo, c'est ton équipe, donc tu me corriges quand tu veux. Mais on recrute un taulier. Oui, Matic a joué à Rennes. Oui, oui. Ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on a peut-être un petit peu oubliées. Mais Matic arrive comme un petit peu un taulier.
Ah, c'est une grosse recrue.
Tu avais Mandanda, taulier, parce que c'est ça qui est important. Matic, taulier. On attend que Théâtre le devienne un petit peu aussi.
Alors, le bémol que je mets à ce que tu dis, tout est vrai. Blas. Mais Blas Coffey s'était quand même positivement accueilli.
En revanche, enflammade avant l'heure.
Ouais, sauf qu'en revanche, et là localement, et tous les journalistes et que je connais très bien, tout a été dit sur l'absence de recrutement derrière qui a été dès le départ signifié. Donc le manque initial et qui se vérifiera pendant toute la saison, il a été l'objet d'ailleurs d'un conflit entre Maurice.
D'un leader défensif.
Ouais, et le non-remplacement d'Aguerd. Globalement.
Mais ça date, ça.
Oui, mais c'est il y a deux ans. Ça veut dire qu'il n'a jamais été depuis remplacé. Et ça, cette faute-là, entre guillemets, ça a fait l'objet, ça a cristallisé d'ailleurs, on va dire, un petit conflit local entre Florian Maurice et les journalistes. Parce que quand ils ont fini l'an dernier quatrième,
il y avait Amari Traoré qui était leader.
Oui, Amari Traoré qui est parti aussi, effectivement.
Une grosse perte.
Mais juste pour te. Après, je te redonne la parole. Quand le Rennes finit quatrième, après un concours de circonstances un peu favorable l'an dernier, Florian Maurice revient un peu dans les journalistes en disant « Ah alors, vous m'avez bien taillé, mais voyez, finalement, on est quatrième. » Et derrière, il y a ce débat sur les défenseurs qui n'ont pas été recrutés. Donc ça a été dit quand même. Il y avait un manque criant et voyant dans l'effectif rennais.
Reste que l'effectif, alors on a peut-être misé sur des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes dans ce secteur-là du jeu. Mais attention, pour ce qui est du milieu de terrain et de l'attaque, ça donnait l'impression d'être une boutique avec des bons produits.
Carrément.
Le milieu de terrain, l'attaque,
Kalimundo,
Guiri, Blas, Enzo le fait pour faire du jeu, Bourigeaud toujours là, qui est certainement peut-être encore le meilleur Rennais, mais si on regarde un peu plus près, il a quand même pas fait une saison absolument extraordinaire non plus en termes de régularité. Devant le milieu, je l'ai dit.
Le retour de Terrier en janvier qui était attendu.
Le retour de Terrier, dont tu t'aperçois, c'est toujours la même histoire. Cette blessure-là, elle est très grave et tu sais jamais vraiment comment tu reviens de cette blessure-là. Et Terrier, bah, le pauvre, souhaitons-lui de retrouver son vrai niveau à la rentrée, mais là, il est très loin de ce niveau-là. Un système de
peut-être
jeu...
Peut-être pas à Rennes, d'ailleurs. Peut-être pas à Rennes.
Ah, oui. Un système de jeu qui a un peu varié sans qu'on... sans que réellement on sache quel était le meilleur. Guiri, c'est quoi son système de jeu préféré? Kalumendo, c'est quoi? C'est le 4-4-2, son système, là où il est le mieux. Mais ça veut dire que tu dois bouger de poste pas mal de joueurs. Donc, est-ce que l'effectif a si bien été construit que ça? Mon alors, propos, c'était surtout de dire...
Matic compte beaucoup. Parce que l'équilibre...
Matic, ça devait être le taulier. C'est une crise énorme, Matic,
et la blessure de Lefay. Parce qu'en fait, tu avais un équilibre, malgré tout, avec des joueurs comme Matic et Lefay au milieu. Matic s'en va, Lefay se blesse. Et effectivement, après, derrière, là, Stéphane, il a bien galéré en reculant Bourigeaud parfois, en le remontant.
Absolument.
Il a bien galéré au milieu.
On a bricolé. Ouais. Ce bricolage, parce que c'était ça l'objet de mon propos, c'est comment tu démarres, comment tu termines. C'est que Stéphane, tu dis, il est discuté, je veux bien. Quand il arrive, les résultats sont bons, puis t'as des moins bons résultats. Mais si tu fais une saison comme Nice, où t'as l'impression à un moment, ils gagnaient plus un match, ils ont fait une deuxième partie de saison, pas bonne du tout, Nice. Tu sais que Rennes, depuis que Stéphane est là, Rennes termine avec 6 points d'avance sur Nice. Sauf que Nice en avait tellement pris au début de la saison. C'est ça, quand je parle de saison très longue, je ne vois pas tellement aujourd'hui de motif de réellement contester Julien Stéphane, qui fait sixième sur sa présence, à rattraper tout ce qui a été perdu, avec un bilan où il n'est qu'à 4 points de Lille, 3 points devant l'OM, 6 points devant Nice. C'est pas si affreux que ça. Ah non, qu'il se pose les bonnes questions pour la suite, et qu'on se dise surtout... que, encore une fois, Lyon est une exception dans la capacité qu'ils ont eue à présenter deux visages et à s'en tirer aussi bien. On arrive au cas de l'OM dont on a parlé mille fois, mais l'OM qui est en train de cravacher pour au mieux la maigre consolation du peut-être sixième place. Et franchement, je ne suis pas sûr que les supporters soient satisfaits au final. Hein. Vraiment, même si...
Il y a un ancien René qui vient d'obtenir un pénalty dans le match Tottenham City.
Ah bah tiens, puisque tu parles de lui, effectivement, dans le profil des joueurs du recrutement, on a également dit à Rennes on a mis beaucoup de joueurs, on a peut-être axé sur plus de joueurs de ballon, mais qu'ils ont manqué de joueurs de percussion.
On a empilé des profils identiques, effectivement, il n'y a pas l'impact player.
On a totalement construit
l'an dernier, et pour beaucoup, dans la fin de saison, réussi. La fin même.
Sa percussion a souvent été intéressante, c'était, comme tu dis, impact player. L'OM, pareil, tout le temps perdu. Tu peux cravacher autant que tu veux. Tu as eu la Coupe d'Europe pour donner l'impression que tu pouvais faire une saison hors du commun. Et sauf que là, au moment de passer à la compta, tu as les deux matchs. Tu as deux matchs à gagner parce que ce sont deux matchs qui, normalement, doivent être gagnés par l'OM pour une maigre sixième place. Et comme à l'OM, on est exigeant et qu'on va pas se satisfaire de ça, je peux t'assurer que Longoria et ses amis vont devoir cravacher dur pour remettre du baume au cœur des supporters de l'OM et pour offrir, parce que l'été c'est la période des promesses, et pour faire des belles promesses, parce que je suis pas sûr que la sixième place ça leur fasse oublier cette saison qui sera qualifiée d'assez terrible.
Un petit pénalty pour City là dans le temps additionnel. Haaland, Lucarne, 2-0 pour City face à Tottenham. Tottenham qui a eu une grosse occasion, un contre un tout à l'heure de Son arrêté par le gardien. Peut-être que City a fait le plus dur pour le titre. On sera avec Julien Laurence dans quelques minutes.
10 minutes d'arrêt de jeu. Et du coup, une nouvelle fois, c'est marrant qu'on en parle et ça fasse écho à ce qu'il a fait en fin de saison avec Rennes l'an dernier. Et dans la progression espérée qu'il aurait avec Guardiola, parce qu'on sait que c'est un joueur parfois un peu limité. Je pense que Guardiola est en train aussi, quelque part, de le faire progresser, de ce qu'on voit de ses entrées. Julien Laurent sera avec nous, on en parlera. Ouais, et là, il est décisif. Hein.
Guardiola, d'abord, est très fort pour faire ça. Mais progresser quand tu es à City, entouré de ces joueurs-là, quand tu arrives comme finalement un petit joueur, parce qu'il n'est pas un titulaire en puissance, même s'il l'a été dans beaucoup de matchs, c'est pas comme être à Rennes où on mise sur toi et où en gros t'es un peu le taulier qui doit impacter le jeu.
Et encore, il était tranquillement. Il était même pas titulaire indiscutable tout le temps parce que t'es à Rennes.
Le problème, c'est que c'est ça aussi dans notre Ligue 1, c'est que y a des joueurs, je suis désolé, on mise énormément dessus sans peut-être se poser une question de base. Est-ce qu'ils sont vraiment si forts que ça? Kalumendo, 25 millions. Bah le mec, il arrive à Rennes. Qu'est-ce que t'attends de lui? T'attends 20 buts, t'attends un crack, c'est comme Elioui à Lens, 35 millions, t'attends 20 buts minimum. Voilà, c'est rare que l'oseille, on le met sur des jeunes joueurs, on en met beaucoup, et t'attends que ces mecs-là soient les cracks de l'équipe. Déjà, t'es pas totalement convaincu qu'ils aient les qualités pour supporter autant d'attentes. Et au final, ça donne ça, quoi. C'est-à-dire des saisons pour ces joueurs-là. J'ai oublié Blas. Blas, putain.
Tout le monde l'a oublié.
Qu'est-ce qu'on a pu dire de positif sur Blas? Mais ce gars est au final dans la catégorie, tu sais, le joueur exaspérant. Il faudra faire l'émission sur les joueurs exaspérants.
Non mais Blas,
c'est un joueur exaspérant.
Ouais, enfin plus qu'exaspérant. Hein. Blas, c'était à la limite parfois de la faute professionnelle, l'attitude, la non-préparation.
Exaspérant.
Oui, totalement exaspérant. Mais une vraie grosse déception. Et finalement, qui avait été annoncé par ceux qui connaissaient bien, on va dire, le type de joueur qu'il était. Parce que moi, j'y croyais, évidemment, techniquement, le profil m'intéressait. Mais autant le fait, c'est sa blessure vraiment qui lui a coupé les pattes, autant le fait... Honnêtement, j'ai envie de dire qu'il a fait une bonne saison parce que avant sa blessure, il était très bon. Et sauf le tout début, l'adaptation à Rennes, franchement, c'est un joueur sur lequel il faut miser. Mais Blas, dans aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup, on en a parlé avec le PSG, mais il faut en parler avec tous les clubs. Il faut parler de la gestion du vestiaire. Comment t'es dans un vestiaire? Quel caractère tu as? Cette équipe, elle manque de caractère.
Ouais.
Et à l'inverse, elle a aussi des gens comme Blas.
Et à Rennes, t'as des clans aussi entre les jeunes, les plus anciens.
Mais juste,
il n'y a pas une osmose parfaite.
Ouais, mais là, toi, un Mandanda fait du bien. Et c'était important quand il a été recruté parce que cette équipe manquait d'un taulier, d'un gars de caractère. Ok. Mais cette équipe sur le terrain, elle en a manqué énormément de caractère. Et elle a coupé le moteur, là, bien trop tôt dans la saison. Et ça, faudra aussi se poser les questions pour. Et le rôle d'un coach aujourd'hui, c'est pas seulement effectivement l'analyse qu'on peut faire tactique et coaching, c'est aussi d'arriver à impliquer et à mobiliser tout le monde. Et là, il y a un doute.
Dans le cas de Blas, c'est le cas classique du vu que tu augmentes son salaire, vu qu'il va dans un club plus important où il y a de la concurrence.
À Blas, c'est du foutage de gueule.
On va le faire progresser. Et on y croit. Tu te dis, tu passes de Nantes, où tu faisais un match sur 10, où tu étais bon quand tu avais envie d'être bon. Bon, c'était peut-être pas un club à ta hauteur. Allez, on tente le coup, on y va. Et tout le monde y croit. Et à l'arrivée,
Point sur Blas, là, c'est aussi pour le problème de recrutement et des profils. Quand on voit, ça sera intéressant d'en parler dans toute cette période mercato avec des DS. On avait échangé là-dessus avec Mathieu Bonnemer, avec des tas de gens. Bien sûr, tu veux savoir le profil psychologique, l'attitude du joueur. Et ça, sur Blas, c'est détectable quand même, sans doute, avant, par des gens qui connaissent bien. Parce que là, aujourd'hui, quand tu es supporter de Rennes, Blas, il est sorti de l'équipe parce qu'il n'est pas bon. Et monsieur estime que c'est pas normal. Donc, comme c'est pas normal, je fais pas les efforts, mais je continue et je fais la gueule. Et je montre que je suis pas d'accord quand je suis à l'échauffement pendant un match, etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas possible. Et effectivement, ça fait aussi partie, dans le recrutement, des choses à prendre en compte et qui n'ont pas été forcément prises en compte à Rennes.
Le foot anglais dans quelques instants. City qui a peut-être fait le plus dur ce soir pour le titre de champion d'Angleterre. Julien Laurence nous rejoint. Et ensuite, gros dossier droit télé à partir de 23h dans l'after.
RMC, l'after foot. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC.
À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin.
6h30, 9h, Apolline Matin. Et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin.
Le réflexe info.
Salut, c'est Antoine Dupont. Mon truc pour récupérer rapidement entre deux matchs de rugby, le roller pur essentiel articulation et muscles. C'est mon coach antidouleur. Il est aussi efficace que naturel.
Le roller pur essentiel articulation et muscles aux 14 huiles essentielles 100% naturelles. Dispositif médical en pharmacie.
Et contre les courbatures, rien de mieux que l'huile de massage Arnica Golteri pur essentiel, avant et après l'effort.
Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC Escrime. De vendredi à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De vendredi à dimanche, avec RMC.
À tous ceux qui en ont marre d'entendre parler d'inflation et qui aimeraient qu'on leur parle d'émotion, d'action, d'imagination, ou au moins qu'on leur apporte des solutions. Merci. En mai, Intermarché s'engage et vous propose les 4 ou 5 tranches de truite fumée Odyssée les moins chères de France à seulement 2,97€. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 19 mai, 120 grammes, soit 24,75€ le kilo, transformé en France, sur la base d'un relevé en date du 13 mai, voire méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
En ce moment, envoyez Roux par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000€ sur RMC.
Et pourquoi envoyer Roux et pas argent, par exemple ?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC. Dès que vous entendez...
Envoyez Roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h54, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là, toujours 2-0 pour City, on est dans le temps additionnel, il reste 2 minutes dans le temps additionnel et Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Bon, est-ce que tu considères qu'ils ont fait le plus dur là ce soir, City en gagnant à Tottenham?
Ah ouais, c'était ce soir hein, que tout se jouait, ouais. Finalement, parce qu'à domicile contre West Ham dimanche, Arsenal recevra Everton de son côté, je vois pas comment contre West Ham il pourrait maintenant... pas être champion.
Un petit relâchement coupable, je sais pas.
Hein. Ils ont tellement l'habitude, Gilbert. Ils ont été dans ces situations-là tellement de fois sur les 7 dernières années, 8 dernières années. Ils sont allés gagner à Brighton quand ils devaient le faire. Ils ont gagné contre Aston Villa il y a 2 ans quand ils devaient le faire aussi, même si ça avait été un peu plus compliqué. C'est vrai, ils avaient été menés 2-0 à domicile ce match-là. Mais c'est ce soir et finalement, ça tout se joue sur cet arrêt incroyable du gardien remplaçant Ortega qui est entré à la place de d'Ederson blessé. Un contre un contre Son, peu le Colomouani Martinez de la finale de la Coupe du Monde. Vous voyez un petit peu pareil, 86e minute cette fois. Si Son marque, ça fait un partout. Et je pense que là, en revanche, c'est plus la même histoire du tout. Et Ortega fait cet arrêt incroyable. Vraiment, un contre un. C'est quasiment le même arrêt, mais de l'autre côté avec son pied droit.
J'ai bien vu Son, il joue très mal le coup, non ? Tu trouves pas qu'il a joué un peu trop facile ?
Si, peut-être, mais c'est la même chose que Colomouani finalement.
Dans le côté ultra décisif, quoi.
C'est ça, exactement. Dans le sens. Et puis vraiment un contre un. Ouais, il essaie de croiser et c'est un bel arrêt de gardien de handball que Ortega fait. Voilà, là survient un partout à la 86e, ça se finit en match nul et Arsenal a encore une chance. Et là maintenant, deux minutes après, faute de Porro dans la surface sur Doku, penalty, Haaland transforme, doublé pour lui ce soir, 2-0.
Et Julien, c'est terminé quoi. Et Doku fait une entrée fracassante hein, il a des occasions et tout, il a fait la diff quand même.
Ah, c'est très fort, mais en plus dans un match pareil, Tottenham laisse beaucoup d'espace toujours, hein, toute la saison, c'est comme ça qu'ils jouent. Le City gagne le championnat ce soir sur cet arrêt de Stéphane Ortega, leur gardien remplaçant, qui d'ailleurs a été nommé homme du match par la télévision anglaise juste pour cet arrêt-là. Il a joué un quart d'heure, enfin 20 minutes. Donc c'est beau et on se rappellera souvent, je pense pour très longtemps encore, et du côté d'Arsenal et du côté de Manchester City, que finalement tout se joue quasiment sur cet arrêt-là. Et c'est aussi ces moments-là qui font des saisons spéciales. Je racontais lundi, par exemple, rappelez-vous, il y a ce but de Compagnie contre Leicester pour Manchester City, cette frappe de fou. Rappelez-vous,
magnifique sur la barre.
Voilà, c'est ça qui offre le titre à City cette saison-là. Ben, cette année, c'est l'arrêt d'Ortega qui leur offre le titre.
Donc City va comme pas beaucoup d'équipes dans l'histoire de la Premier League en qui est un nombre de titres consécutifs, ou en tout cas, on va dire que leur domination sur les 6-7 dernières années est assez incroyable pour un championnat aussi concurrentiel que la Premier League. Ça, j'imagine que c'est évidemment mis en avant en Angleterre, félicité par tous. Est-ce que, dans le même temps, il y a des gens en Angleterre pour dire, malgré tout, il n'y a eu qu'une seule Ligue des Champions et cette équipe, elle ne s'est pas toujours baladée dans cette compétition-là. Et dire également que, oui, sur 38 journées, ils sont imprenables avec un tel effectif, avec des tels principes de jeu. Ils ont des joueurs qui sont supérieurs, ils ont un effectif qui est supérieur à tous les autres. Mais que sur un match aller-retour, qu'en Ligue des Champions, dans la dimension coupe, c'est moins évident pour eux. Est-ce que ça se dit en Angleterre ou pas ?
Non, pas trop, pas encore. Donc c'est leur 4e titre de suite, ce qui n'a jamais été fait auparavant.
Oui, c'est ça qui est fou.
C'est ça qui est fou, cette domination elle est là. Guardiola répète autant qu'il peut que c'est beaucoup plus difficile de gagner un championnat à 38 journées qu'une Ligue des Champions à 6 matchs de poule.
Le problème c'est que ça il peut le répéter et que dans le débat il pourrait avoir raison, surtout en Angleterre. Ça tient pour l'Angleterre, parce qu'en revanche pour tous les autres championnats ça n'est pas vrai. Pour l'Angleterre, avec la richesse de ce championnat, je veux bien être d'accord avec lui, c'est faux. Honnêtement, pour les autres championnats, je ne suis pas d'accord avec lui.
Je suis d'accord.
Maintenant, il dit ça aussi parce qu'il bute sur la Ligue des Champions et que tactiquement tu trouveras tout le temps quelqu'un pour s'opposer à lui sur un match aller-retour et pour s'en sortir parce que tu peux lui opposer ce qu'a fait le Real, je te fais traîner jusqu'au péno. C'est, tu vois, ce sont deux styles de football différents, deux réflexions différentes, parce qu'une équipe qui se sent inférieure peut jouer différemment, et en Angleterre, ça se fait pas trop. Et de dire, bon, bah, écoute, on est moins fort, on va essayer d'aller braquer le match au péno, tout ça, ça fait également partie du foot, c'est dans la réflexion ouais. du foot. Et lui, avec ses grandes réflexions de puriste, il semble dire ça aussi pour ne pas reconnaître que bah, la Ligue des Champions et que les matchs de coupe, ça fait également partie de la légende du foot quand même, et qu'il peut pas prendre ouais, ça par-dessus la jambe. Il peut pas s'en décharger en disant ouais, c'est plus dur les 38 journées, c'est plus dur ceci cela. Ouais, la Ligue des Champions, c'est quand même la compétition la plus suivie au monde, et on a aussi envie de voir si t'es capable de faire la même chose en Ligue des Champions, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais après, t'as une Ligue des Champions pour le Liverpool.